Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième entretien, rencontre avec vous, Éric de Russe, et bonjour.
Bonjour.
J'espère que je ne vous épuise pas trop.
Non, hein, je suis ravi.
Alors, on poursuit sur cette question, au-delà de la question, c'est votre livre. Hein, vous avez eu l'attention, le souci aussi d'écrire, de comprendre.
De comprendre et de faire comprendre.
Et de faire comprendre et de donner des clés pour comprendre.
Oui,
des clés pour vivre dans ce mouvement aussi où il y a quelque peu, c'est nommé, autour de l'autisme.
Oui.
Vous l'avez redit hier, un handicap.
Oui, en tout cas, c'est identifié ou disons assimilé à une forme de handicap au sens où je le disais hier. Handicap invisible.
Invisible, mais ô combien au quotidien, appelé aussi à traverser et à être toujours ajusté avec ce monde-là, avec cette société-là.
Oui.
Alors, comment peut-on favoriser une meilleure inclusion de toutes ces personnes qui sont atteintes d'autisme dans notre société d'aujourd'hui, Éric de Russe?
Alors, la question de l'inclusion, c'est une vraiment très, très vaste question. Je l'évoque dans l'un des chapitres. Donc, je distingue la non-discrimination, le fait de respecter tout être, quels que soient ses choix, ses modes de pensée, etc. Et l'inclusion, qui va, à mon sens, beaucoup plus loin, puisque dans l'inclusion, on ne concède pas seulement une place à une personne, comme on lui concéderait un interstice pour loger son existence, on la considère comme vraiment partie prenante de cette société, de son fonctionnement, et on ose lui laisser la place qui lui revient. Alors, l'inclusion, c'est aussi une question politique, il faut le dire. Et à cet égard, jusqu'en 2027, il y a une délégation interministérielle consacrée aux troubles du neurodéveloppement qui aussi travaille dans ce sens. Mais l'inclusion, c'est un effort de chacun. C'est un effort des personnes et des structures où déjà, je pense que la condition de l'inclusion, c'est de mieux comprendre et de faire comprendre. De faire comprendre ce qu'est la neurodiversité, de sortir d'une lecture déficitaire ou pathologique, et de comprendre qu'à partir du moment où les profils neurodivergents sont partie prenante de l'espèce humaine et des membres à part entière de cette espèce, eh bien, ils ont tout à fait leur place, doivent être reconnus comme des semblables. À partir de là, évidemment, cela va impliquer que les structures dans le monde de l'entreprise, le monde professionnel, etc., au-delà de la famille, si vous voulez, l'insertion sociale, aussi acceptent de s'informer, évoluent ou fassent évoluer les regards, comme vous disiez, entre l'idée que l'on se fait de la personne autiste et puis ce que c'est, et ensuite que l'on se demande comment ces personnes peuvent trouver à part entière leur place, ce qui va requérir évidemment ce qu'on appelle des aménagements, c'est-à-dire aussi, sans que d'ailleurs ce soit, comment dire, quelque chose de négatif loin de là pour une entreprise, au contraire, que de se dire, eh bien voilà, étant entendu qu'il y a des modes de fonctionnement qui doivent pouvoir trouver leur place, il suffit de certains aménagements assez simples. Par exemple, pour ma part, dans le monde dans lequel j'évolue, c'est-à-dire celui de l'enseignement, eh bien, le fait de pouvoir bénéficier d'une salle moins exposée au bruit, par exemple, du fait de l'hyperacousie phonophobique qui est la mienne, c'est très aidant. Le fait d'avoir la même salle, par exemple, et de pouvoir avoir des repères qui ne sont pas imprévisiblement chamboulés, le fait de pouvoir anticiper, prévoir, m'organiser, va être très aidant pour me permettre de déployer le plus librement possible le service que je suis amené à rendre. Cela ne veut pas dire que on attend de moi moins que ce que l'on attendrait de tout enseignant, mais que l'on Met en place, et c'est assez peu coûteux, ce dont j'ai parlé, des conditions qui vont lever des entraves et donc être inclusives pour moi.
Alors pour cela, il faut passer et être diagnostiqué. Alors, pour cette mise en place, hein, parce que là on parle de notre société
très
et puis dans le cadre professionnel.
Oui. Oui.
Aujourd'hui, c'est réaménager votre emploi du temps parce que vous avez passé ce cap du diagnostic.
Alors, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est-à-dire que ces préconisations que l'on peut faire valoir auprès d'un employeur ne peuvent être reçues, ne sont recevables que sur la base d'un diagnostic, mais ce n'est pas tout. Diagnostic qui vous permet, si le travailleur le souhaite...
Et c'est à la demande même du travailleur.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si le travailleur considère, évidemment, avec un médecin ou un ensemble de spécialistes, qu'il est justifié au regard de sa situation et de son fonctionnement, que certaines conditions lui soient concédées, mais pas comme une complaisance, mais parce que réellement, il en a besoin, alors le diagnostic vous permet, en l'occurrence en France, de déposer un dossier auprès de la maison justement du handicap, la MDPH, et possiblement de recevoir une reconnaissance en la qualité de travailleur handicapé. Bon, les dénominations sont ce qu'elles sont.
Donc vous l'avez aujourd'hui ?
Oui, je l'ai aujourd'hui, exactement. Et c'est du fait de cette RQTH que le travailleur peut, s'il le souhaite, en informer son employeur en justifiant par là une demande de préconisation qu'il appartient à l'employeur d'apprécier pour voir dans quelle mesure il a les moyens et il est possible de les mettre en place. Mais en fait, tout le monde a à y gagner. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, une des conditions de l'inclusion, puisque c'est aussi une question politique, c'est de réfléchir au fonctionnement des infrastructures, l'entreprise ou pas, et comment on s'informe, on comprend un fonctionnement et on aménage aussi de façon constructive les choses. En même temps, je relève dans mon livre une ambiguïté aussi au sujet du discours que l'on entend souvent, à savoir « vous avez intérêt ». Par exemple ici, de recruter des personnes autistes à haut niveau de fonctionnement parce que, du fait de leurs certains traits ou aptitudes dans le traitement de certains détails, de certaines informations, ben, vous avez tout à gagner. Et je trouve que c'est ambigu parce qu'à la fois, on essaie par là d'attirer l'attention des ou de faire baisser la prévention des chefs d'entreprise. On essaie de les rassurer. Vous avez tout à gagner. Mais en même temps, ce qui est ambigu, c'est qu'on met en avant une sorte de valeur marchande, de valeur d'échange. On dit, écoutez, c'est monnayable. Non seulement vous n'avez rien à perdre, mais en plus, vous avez peut-être même à gagner du point de vue de la rentabilité, de l'augmentation de la performance et du profit. Ce qui est ambigu parce qu'une personne humaine a une valeur en tant que personne humaine. Donc l'ambiguïté, si vous voulez, de certains discours qui disent, évidemment, qui se justifient au regard d'un souci d'inclusion, c'est qu'en même temps, on fait peser aussi sur ces personnes des attentes parfois disproportionnées. On s'attendrait à ce que la personne autiste à haut niveau de fonctionnement soit supposée, disons, être capable de réaliser certaines performances pour lesquelles elle aurait été recrutée. Et finalement, ça donne le sentiment quand même à la personne concernée de n'être jamais vraiment regardée, acceptée, reconnue pour elle-même en tant qu'être humain, et ça la fait entrer dans une autre dans un autre cercle vicieux qui est celui d'une surenchère de la performance. Il faut que je démontre en permanence, il faut que je prouve, autrement dit il faut que j'achète et que je mérite le respect que l'on m'accorde, n'étant jamais sûr à cette personne que si on l'accepte, on l'accepte vraiment pour elle-même, l'idée étant que peut-être en fait on lui a concédé cela parce que on attend d'elle quand même une surenchère, hein, une augmentation des résultats, des performances. Donc vous voyez, je ne suis pas dupe à l'endroit des ambiguïtés aussi, de certains discours au nom de l'inclusion.
Et c'est ainsi, je laisse les auditeurs accueillir la parole, c'est dit. C'est clair, c'est limpide. Voilà. Alors, aucune performance aujourd'hui ni demain dans cette série des clés pour vivre. Juste un petit rappel, chers auditeurs, si vous le souhaitez, devenez lecteur pour faire ce beau voyage en neurodiversité dans l'autisme. Et ça, je reprends le titre de votre ouvrage, Éric Dorus. Une manière et une autre façon, au fond, d'être au monde. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci.
Je vous remercie.